vérifie 5 heures à Paris, 4 heures à Londres et en temps universel. Toute l'actualité internationale avec vous, Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde.
Bonjour Paul, bonjour à tous. À la une ce matin, les Européens qui montrent leur soutien à l'Ukraine face à la Russie. Londres et Paris proposent une trêve partielle d'un mois. L'aide humanitaire suspendue par Israël dans la bande de Gaza. Décision condamnée par plusieurs pays arabes et les Nations Unies. Israël qui poursuit parallèlement la destruction de camps de réfugiés en Cisjordanie occupée. Reportage à Toul Karem dans un instant. Dans ce journal également, ce rapport de deux coalitions de la société civile qui pointe en RDC le pillage systématique des revenus nationaux par les élites politiques, la fin du salon de l'agriculture en France et le défi du gaspillage alimentaire à éviter à l'heure où les exposants remballent, et puis la cérémonie des Oscars à Los Angeles avec le triomphe d'Anora, sacré meilleur film. Une poignée de main chaleureuse avec le roi Charles III pour conclure son déplacement au Royaume-Uni. Le président ukrainien qui était à Londres hier après-midi pour obtenir le soutien ferme de ses alliés européens après son altercation avec Donald Trump à Washington. Londres et Paris proposent donc une trêve partielle d'un mois en Ukraine, une trêve dans les airs, sur les mers, selon le président français, et qui concernerait aussi des infrastructures énergétiques. Les Européens vont travailler pour mettre fin au combat sur le premier ministre britannique. L'Europe doit faire le gros du travail, mais avec le soutien des États-Unis, ajoute Keir Starmer. Correspondance depuis Londres de Sarah Menei.
L'Europe se tient aux côtés de l'Ukraine. C'est le message qu'aura voulu faire passer le continent ce week-end à Londres. Autour de Volodymyr Zelensky et de Keir Starmer, une douzaine de dirigeants européens, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, mais aussi le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui estime qu'il est urgent que l'Europe se réarme.
Nous devons faire un bond en avant dans le domaine de la défense. Nous devons augmenter massivement nos dépenses en matière de défense. Nous avons tous compris qu'après une période de sous-investissement, il est maintenant de la plus haute importance d'augmenter nos investissements en matière de défense pour une période prolongée, et ce pour la sécurité de l'Union européenne.
Après 2 heures de discussion, il en ressort donc que l'Europe doit trouver une politique de défense commune et les investissements nécessaires pour y parvenir. En attendant, elle continue son soutien militaire à l'Ukraine et va proposer un accord de paix, un plan pour un cessez-le-feu à Donald Trump qu'il pourra ensuite négocier avec Vladimir Poutine. Les Britanniques se disent prêts à donner à Volodymyr Zelensky les garanties nécessaires du respect d'un cessez-le-feu grâce notamment à une couverture aérienne et à des troupes au sol. Face aux États-Unis et à la Russie, les Européens réunis autour de Volodymyr Zelensky ont fait bloc. Sarah Menei, Londres, RFI.
Et parmi les dirigeants présents à Londres pour ce sommet, Olaf Scholz, le chancelier allemand sortant, qui va laisser sa place au conservateur Friedrich Merz, en pleine discussion donc sur la sécurité européenne. Et alors que les négociations se poursuivent en Allemagne pour la formation du futur gouvernement, la CDU et le SPD envisageraient justement, Nathalie Versieux, la formation de 2 fonds pour la défense et les infrastructures.
Ce sont des volumes de dépenses à donner le tournis aux Allemands. Les chrétiens et les sociaux-démocrates négocient depuis une semaine leur futur accord de coalition, ils envisageraient, selon des indiscrétions, la mise en place de 2 fonds, l'un de 400 milliards pour les dépenses militaires, l'autre d'un volume similaire pour les infrastructures et relancer la croissance. Friedrich Merz aura besoin du Bundestag sortant pour mener à bien ses dépenses, qui nécessitent la majorité des 2/3. Dans la nouvelle Assemblée, sa majorité sera très courte, les 2 extrêmes, l'AFD à droite, Die Linke à gauche, opposés à toute dépense militaire, disposeront d'une minorité de blocage que le futur chancelier espère donc contourner. Il veut faire adopter les 2 fonds d'ici la fin du mois. Le nouveau Parlement devra se constituer au plus tard le 24 mars. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre israélien qui remercie Donald Trump d'avoir autorisé l'envoi d'armes à Israël. Le chef de la diplomatie américaine a signé hier l'envoi d'une aide militaire d'environ 4 milliards de dollars, ce qui permettra, selon Benjamin Netanyahou, de finir le travail contre l'axe iranien du terrorisme, selon ses mots. Pendant ce temps, dans la bande de Gaza, Israël a bloqué jusqu'à nouvel ordre l'entrée de l'aide humanitaire après des désaccords avec le Hamas sur les modalités de la suite du cessez-le-feu, blocage condamné notamment par l'Égypte, l'Arabie Saoudite Saoudite et le Qatar. L'État hébreu veut mettre en œuvre la dernière proposition américaine qui prévoit une extension de la première phase de la trêve pendant le Ramadan et la Pâque juive jusqu'à la mi-avril. Mais le mouvement islamiste palestinien lui rejette cette option et veut appliquer la deuxième phase de l'accord initial qui prévoit notamment un retrait complet des soldats israéliens et la libération des otages encore détenus par le Hamas. La Croix-Rouge appelle en tout cas à maintenir le cessez-le-feu et les Nations Unies demandent la reprise immédiate de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Parallèlement, l'armée israélienne poursuit ses opérations en Cisjordanie occupée et continue de détruire des camps de réfugiés vidés de leur population. 40 000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer. Les envoyés spéciaux de RFI, Oriane Verdier et Julien Boileau, se sont rendus à Toul Karem, l'une des deux villes visées par cette opération. Reportage.
Regardez, ils sont en train de détruire ma maison. Tu vois le bulldozer là-bas ?
Au sommet d'une colline, hommes et enfants observent le travail de l'armée israélienne dans le camp de Nour Shams.
Nous sommes beaucoup à venir ici pour voir nos maisons. L'armée israélienne les détruit ou les brûle. On ne peut rien faire. Ici, c'est le plus près qu'on puisse être tout en étant en sécurité. Enfin, pas vraiment en sécurité. Hier, ils sont venus, ils nous ont tiré dessus directement. Ils ne veulent pas que les gens et les journalistes voient leurs crimes.
Ces camps accueillent les familles qui ont été expulsées ou ont fui leur terre il y a 77 ans lors de la création de l'État d'Israël. Encadrés par les Nations Unies, ce sont aujourd'hui de petites villes aux maisons enchevêtrées.
L'armée israélienne veut créer de grandes artères pour mieux contrôler ce qu'ils considèrent comme un foyer du terrorisme qui peut s'embraser à tout moment. Parce que nous avons grandi dans l'attente de rentrer un jour sur nos terres. C'est la deuxième fois qu'ils nous délogent. Ils veulent effacer toute trace de notre droit au retour.
En septembre dernier, l'Assemblée générale des Nations Unies a donné un an à Israël pour mettre fin à sa présence illicite sur le territoire palestinien occupé. Julien Boileau, Oriane Verdier, Toul Karem, RFI.
En Syrie, le président par intérim charge un comité d'experts de rédiger un projet de déclaration constitutionnelle pour la phase de transition entamée depuis la chute de Bachar al-Assad. Cette décision fait suite à la conférence de dialogue national organisée la semaine dernière à Damas. En République démocratique du Congo, un rapport pointe le pillage systématique des revenus nationaux par les élites politiques. Rapport publié par Le Congo n'est pas à vendre et le réseau panafricain de lutte contre la corruption, deux importantes coalition de la société civile. Et la précision de Pascal Moulégois.
Les rapports critiquent l'élite politique pour sa cupidité qui fragilise l'égalité et l'efficacité de l'État. Des millions de dollars sont siphonnés pour des coûts de fonctionnement des institutions, tandis que les investissements nécessaires pour le développement du pays sont insuffisants. Les inégalités salariales sont frappantes. Des députés gagnent jusqu'à 21 000 dollars mensuels quand les enseignants, militaires et policiers perçoivent environ 100 dollars. Les dépenses publiques sont mal maîtrisées, notamment à la présidence de la République et dans les ministères avec des dépassements budgétaires systématiques. L'opacité autour des salaires des responsables politiques est dénoncée. Les rapports proposent de réduire les coûts institutionnels en fusionnant certaines structures, par exemple l'agence anticorruption de la présidence avec l'inspection générale des finances. Et supprimer surtout les organismes obsolètes tels que les Conseil national des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre et les conseils économiques et sociaux jugés trop coûteux. Enfin, la société civile déplore l'attitude du président Félix Tshisekedi qui, selon les rapports, manque des volontés politiques pour réduire les dépenses publiques, en particulier avec sa promesse de fournir des jeeps aux 500 députés, ce qui est perçu comme un affront à la lutte pour la justice et une redistribution équitable des richesses nationales. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
Le premier vol commercial d'Ariane 6, la fusée européenne, doit décoller de Kourou en Guyane française à 13h24, heure locale, en fin d'après-midi à Paris. Elle avait réussi après plusieurs années de retard son vol test en juillet dernier, mais à ce moment-là, elle n'avait emporté que des expériences scientifiques et universitaires, sans enjeu commercial. Donc, cette fois-ci, elle emporte à son bord, Justine Fontaine, un satellite militaire français.
En raison du retard d'Ariane 6, le satellite espion CSO-3 aura attendu près de 3 ans par rapport à sa date de lancement prévue initialement. Il est désormais en place dans la fusée à Kourou, prêt à être lancé pour prendre des photos depuis l'espace pour le compte des services de renseignement français et de plusieurs de ses alliés européens. Après un vol test réussi en juillet dernier et le retour en piste de la fusée Vega C en décembre, ce premier vol commercial d'Ariane 6 doit venir confirmer que l'Europe a de nouveau un accès plein et souverain à l'espace. Mais avec seulement 9 décollages prévus cette année, le centre spatial de Kourou reste loin, par exemple, des Américains et de SpaceX, qui a effectué plus de 100 lancements en 2024. Karine Levaux est directrice du transport spatial au CNES, l'agence spatiale française, qui gère la base de Kourou avec l'ESA, l'agence spatiale européenne. Guyane.
100 lancements par an en Guyane, non, c'est pas du tout envisageable, c'est pas notre ambition non plus. Ce que l'on vise, c'est d'être en capacité de faire 30 lancements par an.
Pour ça, le Centre spatial a entamé des travaux de modernisation en 2019, 140 millions d'euros financés par l'ESA, ce qui doit aussi lui permettre d'accueillir pour la première fois à partir de cette année des mini-lanceurs, c'est-à-dire de petites fusées.
Justine Fontaine, et pendant ce temps, SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, prévoit aussi un nouveau vol de sa méga-fusée Starship, le 8e vol test après l'explosion en janvier au-dessus des Caraïbes du 2e étage de la fusée. Un peu plus de 607 000 visiteurs en plus d'une semaine. Fréquentation en légère hausse au Salon international de l'agriculture à Paris. La 61e édition s'est terminée hier. Les exposants remballent avec cette question. Que faire des tonnes de produits invendus? Pour limiter le gaspillage, les banques alimentaires d'Île-de-France avaient récupéré l'an dernier 15 tonnes de denrées, soit environ 30 000 repas. Et les producteurs de fromage notamment et de fruits et légumes comptent particulièrement sur ce partenariat. Reportage de Mathias Troud.
Jean Barou, éleveur de chèvres en Dordogne, tente un morceau de fromage à déguster. Mais tous ces échantillons ouverts pour une lichette ne sont-ils pas une source de gaspillage?
Tout ce qu'on découpe est utilisé parce qu'on le fait goûter. Et après, aux derniers visiteurs qui passent, on fait finir les petites lanchettes qu'on a coupées. On ne jette pas. Il y a certains fromages comme les tomes et des fromages un peu secs qui reviendront chez leurs éleveurs. Et après, on a des fromages un peu crémeux qui, eux, va falloir qu'on trouve un système pour les redistribuer à quelqu'un. Ça sera une dizaine de kilos de fromage.
Ce système, ce sont les banques alimentaires qui passent en fin de salon. Véronique Barbier de la ferme des Hauts-de-France a déjà fait une promesse de don.
L'année dernière, on n'avait rien du tout à donner. On a réussi à être à l'équilibre. Là, je pense que cet après-midi, oui, on va donner tous les produits frais qu'on a normalement dans notre vitrine ou dans notre camion qui a été produit avant le salon.
Côté maraîcher, on trouve même un stand anti-gaspi où Erwan Lanquet, chef à domicile dans le Nord, sensibilise les visiteurs.
Donc on utilise nos pommes donc qui ont été un peu amochées par le temps, on va dire, pour faire une petite compote. Là, on a toutes nos épluchures, on va faire des petits beignets d'épluchures. On va mettre un peu de citron aussi pour qu'elle ne noircisse pas trop à la friture. Et après, pour le reste, on essaye d'utiliser en fait tout ce qu'on a sous la main.
Même les céleri branches et tomates de la tour FL pour fruits et légumes seront réutilisées, au pire pour le compost ou les animaux.
Le reportage de Mathias Troud. Et puis après une palme d'or à Cannes, Anora, sacré meilleur film aux Oscars. L'histoire d'une stripteaseuse new-yorkaise qui tombe amoureuse d'un oligarque russe. Mikey Madison a d'ailleurs remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle. Et puis Sean Baker, sacré meilleur réalisateur. A noter aussi la victoire d'Adrien Brody, meilleur acteur pour The Brutalist. On reviendra plus en détail sur l'ensemble du palmarès dans les prochains journaux.
Clotilde Dumais.
À 5h12, à Paris, une heure de moins en temps universel, on reste encore ensemble pour une vingtaine de minutes. Dans un instant, on va revenir sur cette étape historique en Turquie. Le parti des travailleurs du Kurdistan qui a déclaré un cessez-le-feu ce week-end après l'appel du chef historique du PKK à déposer les armes. Nous serons avec la correspondante de RFI à Ankara. Puis reportage en Galice, au nord-ouest de l'Espagne, où la production de coquillages a fortement diminué, conséquence du réchauffement climatique. Rencontre à suivre aussi avec la jeune chanteuse française Dina, le conseil santé sur les effets néfastes de l'utilisation des écrans par les enfants. Et puis un peu de musique encore avant le retour de l'actualité africaine, ce sera dans un peu moins d'une demi-heure. En Turquie, donc, après 40 ans de combat, Abdullah Öcalan, le fondateur et chef emprisonné du Parti des travailleurs du Kurdistan, a appelé jeudi dernier son groupe à déposer les armes et à se dissoudre. En réponse, ce week-end, le PKK a donc décrété un cessez-le-feu. On y revient avec Anne Andlauer, correspondante de RFI à Ankara. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on peut d'abord attendre désormais pour la suite désormais?
Eh bien, selon des informations concordantes publiées dans plusieurs médias proches du gouvernement, les autorités turques s'attendent à ce que le PKK organise un congrès, comme Abdullah Öcalan l'a demandé, d'ici à la fin du printemps. Un congrès au cours duquel le groupe devrait annoncer son désarmement et sa dissolution. Dans l'intervalle, Abdullah Öcalan continuera d'être impliqué dans le processus et de recevoir des visites sur l'île d'Imralı, où il est emprisonné. Alors, dans quelles conditions, ce n'est pas encore clair, mais dans sa réponse à l'appel, le PKK réclamait que son chef historique puisse travailler en toute liberté physique et diriger lui-même le congrès.
Est-ce que ça veut dire donc qu'Abdullah Öcalan pourrait bénéficier d'une forme de libération ?
Alors, ça ne veut pas dire qu'il sera libéré, hein, mais que son isolement prendrait fin et que des canaux de communication entre Abdullah Öcalan et les différentes composantes du PKK, notamment dans le nord de l'Irak et en Europe, devraient être ouverts. Si cette première phase aboutit, commencera une deuxième phase durant laquelle seront réglées les questions techniques, telles que le devenir des armes détenues par le PKK, le sort des chefs militaires du groupe et celui des membres non impliqués dans des crimes contre l'État. Dans un troisième temps, un volet politique débutera au Parlement avec des discussions autour d'éventuelles réformes. C'est en tout cas le calendrier détaillé par la presse proche du président Erdogan.
Le président turc qui a salué une opportunité historique de débarrasser son pays du terrorisme. Mais est-ce qu'on sait, Anne, ce que le PKK pourrait avoir obtenu en échange ?
Officiellement, rien du tout, en tout cas rien pour l'instant. Ces mêmes médias assurent que tant que le PKK n'aura pas désarmé et acté sa dissolution, les autorités turques seront dans une position attentiste. Aucune promesse, aucune concession. Mais Tayyip Erdogan lui-même a affirmé que le succès du processus ouvrirait la voie, je cite, « un élargissement de l'espace de la politique démocratique ». Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Fin de la pratique de destitution des maires élus sous les couleurs du parti pro-kurde, le DEM. Libération des prisonniers politiques, comme l'ancien dirigeant de ce parti, Selahattin Demirtas, incarcéré depuis plus de 8 ans, assouplissement des lois antiterroristes, nouveaux droits et reconnaissance de l'identité kurde dans la Constitution. Rien de tout ça n'est évoqué publiquement par le pouvoir, mais l'idée est que quand les autorités n'auront plus l'argument ou l'excuse du terrorisme pour réprimer le mouvement politique kurde, il sera plus facile pour ce dernier de mener ses activités et pour l'État et la société turque de débattre de ses demandes. Même si l'on imagine mal, pour l'instant en tout cas, comment, avec le nationalisme exacerbé et les pratiques répressives qui prévalent depuis 10 ans, le pouvoir actuel pourrait être à l'origine d'une ère de démocratisation en Turquie.
Alors, si jamais ce processus fonctionne, est-ce que le président Erdogan pourrait en tirer profit sur le plan politique ?
Alors, évidemment, il serait reconnu comme le dirigeant qui a réussi à mettre fin au PKK, ce qui n'est toutefois pas la même chose que résoudre la question kurde. Quoi qu'il en soit, il espère sans doute gagner le soutien du parti pro-kurde et de son électorat pour pouvoir se représenter en 2028, ce qui ne sera techniquement possible que si une majorité suffisante au Parlement vote en faveur d'élections anticipées ou ouvre la voie à une révision de la Constitution.
Les explications d'Anne Andlauer, correspondante de RFI à Ankara. En Galice, la pêche aux coquillages n'est plus miraculeuse. Plus grande productrice de moules au monde, après la Chine et le Chili, cette région du nord-ouest de l'Espagne assiste à l'effondrement de sa production de coquillages. Les pertes sont chiffrées à 10 millions d'euros pour 2023. En cause, le réchauffement climatique et la pollution qui affectent la Galice. Reportage de Diane Cambon.
Si la production de moules a diminué, ce mollusque bivalve est celui qui se porte le mieux dans la région. En Galice, dans certains estuaires comme celui de la baie d'Arousa, épicentre de la culture de coquillages, la production de coques et palourdes ont chuté de 80%. Marina et Mariscadora, pêcheuses à pied, une profession exercée déjà par sa mère et sa grand-mère, chaque jour, depuis 30 ans, elles ratissent durant 4 heures à marée basse le sable à la recherche de palourdes fines, palourdes japonaises et coques.
Moi, j'ai commencé avec ma mère et on n'avait pas de quotas à respecter. On ramassait des seaux énormes, tout ce que donnait la marée. Aujourd'hui, c'est totalement impensable. On a le droit à 6 kilos par jour et par personne en tout. De toute façon, il y en a de moins en moins et les palourdes ne sont plus aussi grosses qu'avant. Il se passe quelque chose, c'est évident. C'est le changement climatique, ça nous affecte énormément.
La crise climatique qui fait monter la température de l'eau et qui réduit la qualité du plancton dont se nourrit les coquillages occupe toutes les conversations. C'est aussi la principale raison avancée par Manuel Santos, coordinateur de Greenpeace en Galice, pour expliquer la chute de la production. Depuis le port de Vigo, l'écologiste fait un constat dramatique de la situation.
Je crois qu'on peut commencer à parler d'effondrement du système écologique des estuaires de Galice. Avant, ici, il pleuvait doucement toute l'année. Mais désormais, on a de grosses averses qui ont pour effet de faire baisser la salinité de l'estuaire. Mais il y a aussi un autre facteur, c'est la pollution des estuaires. Officiellement, il y a 2000 sites de déversement de déchets, mais il y en a sans doute plus. Et 10% sont contaminés par des produits hautement toxiques.
Alors qu'elle sera à la retraite d'ici 2 ans, Marina n'est pas optimiste pour l'avenir de sa profession.
Avec 2 années pas très bonnes à la suite, beaucoup de gens renoncent à leur permis de pêche. Je pense que d'ici 10 ans, on va disparaître. La pêche artisanale ne reçoit pas de soutien, rien du tout. On aide seulement les plus gros, les industriels. Nous ne pesons plus rien, alors que nous avons tout construit ici, nos maisons, nos vies. On a élevé nos enfants grâce à la mer.
Paysannes de la mer, comme on les appelle sur le littoral de Galice, les mariscadoras sont actuellement au nombre de 2800. Elles étaient 4000 il y a à peine 5 ans. Diane Combon, Vigo, RFI.
Un reportage à réécouter sur le site internet et l'application Pure Radio de RFI. Elle vient de sortir un deuxième disque de 8 titres intitulé « Finalement ». La jeune chanteuse française Dina, qui s'est d'abord fait connaître sur les réseaux sociaux avant d'être repérée par des artistes pour qui elle a fait les premières parties de concert, Angus and Julia Stone, le groupe Texas, Big Flo, Sofiane Pamar. Dina est l'invitée d'Edmond Sadaka.
Bonjour Dina.
Bonjour.
Cette chanson antithèse dont on entend quelques notes, vous dites que c'est l'une de vos préférées sur cette EP. Pour quelle raison ?
Parce que je trouve que ça me décrit très très bien en tant que personne. Je suis vraiment quelqu'un de très contradictoire dans la vie, entre la super stressée et la super relaxe. Et c'est vrai que c'est un morceau que j'aime beaucoup, notamment musicalement, parce que c'est un des rares où on retrouve le côté un peu bluesy, jazzy, plus à la Amy Winehouse. Je trouve qu'on a beaucoup de mes influences qui ressortent.
Je me morfose, je suis le loup, je suis la biche. Je suis une antithèse, j'aime la vitesse. Le corps qui pèse, le cerveau ralenti.
Pour vous, Dina, les choses sérieuses, on va dire, ont commencé il y a un peu plus de 2 ans et de manière indirecte grâce à un rappeur A2H. Racontez-nous cette histoire.
Exactement, cette histoire est assez folle. C'est tout simplement quelqu'un de Grenoble où j'habitais à l'époque qui me croisait souvent chanter dans la rue, qui est tombé sur A2H dans Paris et lui a dit salut, je connais une fille qui chante des reprises de toi, elle s'appelle Dina, elle habite à Grenoble. Et il est allé chercher, il est tombé sur ma reprise quoi. Donc c'est assez fou. Aujourd'hui du coup je suis dans son label, on travaille ensemble et c'est vrai que à chaque fois que j'y repense, je me dis que c'est fou de me dire qu'un moment dans la rue, une personne, un inconnu que je ne sais même pas qui c'est, m'a permis d'être là en fait aujourd'hui et discuter avec toi, c'est assez fou. Ouais.
Parmi les 8 titres de cette EP, il y a entre autres « Que reste-t-il ?». C'est une chanson très engagée. Comment est-elle née cette chanson ?
L'histoire, elle est assez simple. En fait, je me suis réveillée un matin avec un coup de réalité face à la situation actuelle. C'était à peu près au début des JO, au moment où on a commencé à beaucoup médiatiser la situation à Gaza. C'est vrai que des fois, il vaut mieux pas que j'ai les informations parce que sinon, je vais péter un câble. Et je sais pas pourquoi, cette journée-là, j'ai lu toute l'actualité et c'était un coup de trop. Donc, c'est sorti tout seul, en fait.
Parfois, je me demande si on vit tous sur la même planète. Y a des gens sous les bons, mais on parle que des JO sur les ans. On a laissé le pouvoir à mes mecs pas nets.
Et puis dans un style plus léger, il y a Tourner sous la pluie. Vous vous adressez aux très jeunes, aux enfants.
À Tourner sous la pluie, c'est un morceau que j'aime beaucoup. C'est un de mes morceaux rares aussi, qui est un peu joyeux. Je l'ai écrit pour mes neveux et mes nièces. J'avais vraiment envie de faire quelque chose qu'ils puissent écouter du haut de leurs 5-6 ans jusqu'à leurs 70 ans s'il le fallait. Quoi. Un morceau qui les accompagne, qui rappelle aux enfants qu'il est important de profiter de la vie, de lâcher un peu nos écrans, de ne pas vouloir grandir trop vite et d'aller tourner sous la pluie de temps en temps.
Merci Dina.
Merci à toi.
Les nuages dansent, regarde dehors. Les gouttes qui tombent valent plus que de l'or. Alors vas-y, cours, tourne sous la pluie. Avant que la vie te bouffe, attrape ton parapluie. Tu sais, tout est possible, tu peux devenir qui tu veux. La vraie magie dort chez les ambitieux. C'est beau d'avoir des rêves, il faut pas les lâcher. Ton monde imaginaire pourrait vite te manquer. N'envie pas les grandes personnes derrière leur écran, oui tu sais, elles sont très seules. Toi t'as tout à apprendre. Cache pas ton temps à attendre.
La jeune chanteuse française Dina, interrogée sur RFI par Edmond Sadaka.
Le conseil santé avec Sunway Assurance.
Les effets néfastes de l'utilisation des écrans par les enfants. Eh bien, Caroline Paré en parle avec son invitée.
Docteur Ndei Awa Diey, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital psychiatrique de Thiaroy au Sénégal. Est-ce qu'en consultation, vous recevez des enfants qui présentent des signes de surexposition aux écrans?
Oui, en effet Caroline. On va dire la moitié de nos consultations, justement, c'est ce cas de figure, des enfants exposés trop tôt ou de manière trop prolongée aux écrans.
Les consultations, c'est à l'initiative des parents ou c'est parce qu'ils ont été conseillés, par exemple, par l'entourage ou par un instituteur?
Bon, on va dire les trois cas de figure se présentent. Les parents arrivent seuls. Parfois, c'est l'école qui leur impose la consultation et parfois, c'est même les grands-parents qui viennent avec l'enfant en consultation.
Et quels sont les signes qui poussent ces familles à consulter?
A priori, ce qu'on voit plus au Sénégal, c'est les retards de langage. C'est des enfants qui, jusqu'à 4-5 ans, ne font pas de phrases correctes.
Et ça veut dire que quand les parents, vous les recevez en consultation, qu'est-ce que vous leur dites? Pas d'écran avant quel âge?
A priori, les écrans doivent être proscrits jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais aujourd'hui, c'est quasi impossible. Donc, nous leur disons jusqu'à l'âge de 2 ans. Et entre 2 et 3 ans, vraiment d'encadrer les moments d'exposition aux écrans.
Merci beaucoup, professeur Ndei Awa Diey. Tout à l'heure, dans Priorité Santé, nous allons parler de la famille et en particulier de l'enfant préféré. Un choix assumé ou non, parfois même incontrôlable. Comment expliquer chez certains parents ce déséquilibre dans l'affection envers l'un des enfants? Quelles conséquences pour les relations au sein de la fratrie et pour le développement des frères et sœurs? Vos questions, vos témoignages et la réponse d'une spécialiste, ce sera à 9h10, temps universel.
Merci beaucoup, Caroline Paré. Pour le moment, il est à 5h26. À Paris, une heure de moins en temps universel. Allez, encore un peu de musique française, toujours avec le Sound System, voilà. Et le Sénégalais Las. System, c'est le choix des programmateurs sur RFI. Voilà, hélas, dans la playlist à découvrir sur RFI Musique. Voilà donc pour cette demi-heure d'information internationale. Merci à Lorraine Nemoza, la réalisation. Restez avec nous dans un instant, l'actualité africaine sur RFI.
même système.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui.
En amour aussi, il y a des drapeaux rouges. Laurence Garcia vous donne la parole sur les relations toxiques.
Demain.
Quelle place pour les femmes dans la Syrie d'après Bachar el-Assad ? Quelles sont leurs attentes ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU